Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Connaissez-vous l'affaire Ophélie Claude Boxberger? Cette athlète de 31 ans a été contrôlée positive à l'EPO en septembre 2019, quelques semaines avant les mondiaux de Doha, au Qatar, et un membre de son entourage, le compagnon de sa mère, affirme aux enquêteurs qu'il lui a injecté le produit dopant sans lui dire, le mobile, selon lui, la jalousie. Cet homme de 62 ans évoque une vengeance suite à un dépit amoureux. Cet épisode de Code Source est raconté par Sandrine Lefebvre du service des sports du Parisien. Sandrine Lefebvre, vous couvrez l'athlétisme depuis plus de 10 ans, depuis les mondiaux de Berlin en 2009. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans ce sport ?
Les histoires humaines, avant tout. C'est un sport où il y a beaucoup d'athlètes qui sont différents, qui participent à des épreuves différentes, qui ont des caractères totalement opposés, et on crée réellement des liens avec eux. Quelqu'un comme Renaud Lavillenie, je l'ai découvert en 2009, il était tout jeune, on l'a vu devenir champion olympique, devenir papa. Donc voilà, c'est des sportifs qui se transforment et qui sont passionnants réellement à suivre.
Et c'est leur vie qui vous intéresse, qui vous plaît le plus ?
C'est leurs émotions, leur vie, leurs émotions et la façon dont ils se transcendent pour réaliser une performance. Kevin Mayer, par exemple, est un exemple incroyable dans ce domaine.
Pourquoi ?
Parce qu'il passe dans des espèces de montagnes russes. C'est quelqu'un qui se met très très mal la veille des compétitions, qui est limite dépressif et qui, le jour J, se transcende pour aller battre un record du monde.
Vous êtes déjà intervenu dans Code Source pour nous raconter l'affaire Clémence Calvin. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots cette affaire ?
Alors, c'est une affaire un peu rocambolesque, puisque Clémence Calvin est actuellement suspendue pour dopage, pour 4 ans. Au mois d'avril 2019, elle a échappé à un contrôle antidopage diligenté par l'Agence française de lutte contre le dopage. C'était à Marrakech, il s'était rendu sur place pour la contrôler. Et ce jour-là, elle dit avoir été agressée par les contrôleurs. Et puis les contrôleurs, eux, racontent qu'elle s'est échappée avec son enfant.
Elle s'est échappée en courant.
Exactement.
Aujourd'hui, vous allez nous raconter une autre affaire de dopage dans le monde de l'athlétisme, celle d'Ophélie Claude Boxberger. D'abord, quelle est sa discipline ?
Ophélie participe aux 3000 mètres steeple. Elle a commencé l'athlétisme par le 800 mètres, le 1500 mètres, et puis elle est montée en 2015 sur le 3000 mètres steeple.
C'est quoi ?
C'est une course de fond où il faut passer des obstacles, et notamment une rivière de steeple à chaque tour. Ça allie rapidité et puis agilité.
Elle est douée, Ophélie Claude Boxberger ?
Alors, c'est pas une star de l'athlétisme tricolore. Ophélie, c'est une athlète qui se qualifie en équipe de France, mais de manière assez ric-rac. C'est toujours, elle réalise les minima au dernier moment. C'est une athlète qui est devenue régulière de l'équipe de France.
Et elle a une grande volonté, j'imagine ?
Elle est assez troublante là-dessus. C'est plus que de la volonté. Elle est vraiment au service de l'athlétisme et elle se met dans des états absolument hallucinant pour y parvenir. Elle enchaîne les entraînements de manière intensive. Elle enchaîne également les courses. En 2018, elle en fait une trentaine. Donc c'est ce qui va un petit peu peut-être alerter l'Agence française de lutte contre le dopage, qui va régulièrement la contrôler.
À quoi elle ressemble physiquement ? Est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Alors c'est une athlète assez grande, elle mesure 1m70. Elle est élancée, châtain, les cheveux ondulés, qu'elle a souvent attachés. Donc elle est assez jolie, assez coquette et surtout très athlétique.
Elle est comment en interview ?
Elle est très structurée. C'est une fille qui va droit au but et qui est clair dans ses propos, structuré. Moi, je l'ai eu en interview après son contrôle antidopage. Et voilà, elle n'hésite pas dans ses réponses. Elle est spontanée. Et puis voilà, on sent pas d'hésitation, de choses troublantes dans son récit.
Elle a participé aux mondiaux d'athlétisme qui se sont disputés à Doha, au Qatar, cet automne, mais sans briller.
Alors, elle espérait bien entendu rentrer en finale du 3000 mètres steeple. Elle se fait sortir en série. C'est décevant, mais c'est pas une réelle contre-performance. Elle est à son niveau.
Elle a 31 ans et elle a une histoire difficile. Elle n'a pas connu son père. Qui était-il ?
Son père, Jackie Boxberger, il faut revenir un petit peu en arrière et se revoir un petit peu ce qu'était l'athlétisme dans les années 80. On sortait de Michel Jazy, un grand coureur de demi-fond français qui faisait rêver les Français. Et puis arrive Jackie Boxberger. Alors c'est un coureur pareil de 800, de 1500 mètres. Il va participer 4 fois aux Jeux Olympiques. Et puis, c'est surtout un crossman. Donc, à l'époque, il y avait le cross du Figaro qui faisait rêver tout le monde. C'était le cross de l'année en France. Il l'a remporté à 7 reprises. Il courait pour Sochaux. Il travaillait à l'usine Peugeot. Donc, c'était une star de l'athlétisme tricolore. Et puis, quelqu'un qui, dans une épreuve, dans une discipline de demi-fond, qui passionnait les gens à l'époque.
Mais donc, elle ne l'a pas connu.
Non, puisque Jackie Boxberger est marié à Flora. Il a un petit garçon qui s'appelle Jérémy. Et puis, on va découvrir plus tard qu'en fait, il a eu une relation extra-conjugale et que de cette relation est née Ophélie, 1 an après Jérémy. Alors, c'est là que c'est un petit peu déroutant avec elle parce qu'elle parle de son père sans réellement rentrer dans les détails. Elle parle de souvenirs. Elle parle surtout de l'image qu'elle a de son père qui participait aux Jeux Olympiques. Elle dit que son rêve, c'est de faire comme lui, d'y aller aux Jeux Olympiques. Et en même temps, quand on lui demande quel souvenir elle a avec lui, là, elle évite un petit peu ces questions, parce que sans doute, n'en a-t-elle pas réellement de souvenir avec lui.
Et il est mort quand elle était encore enfant.
Elle avait 13 ans, donc il meurt dans des conditions atroces, puisqu'il est en safari au Kenya avec son épouse et son petit garçon, et il va se faire charger par un éléphant. Et donc, il va mourir au Kenya sous le regard de sa femme et de son petit garçon écrasé par l'éléphant.
Et donc, Ophélie était une enfant illégitime. Elle n'a pas vécu avec son père.
Elle n'a absolument pas vécu avec son père. Et on ne sait pas trop, d'ailleurs, si elle a beaucoup vu son père durant cette période. Voilà, c'est quelque chose dont elle ne parle pas. Et en tout cas, la veuve de Jackie Boxberger, d'après elle, elle n'a absolument pas connu son père. Quelques mois après la mort de son père, elle va aller au club de Sochaux. Elle pratique pas du tout l'athlétisme à l'époque. Elle fait de la gymnastique, elle joue du piano, elle est virtuose. Elle va s'entraîner dans le stade qui porte le nom de son père. Et quand les résultats vont commencer à arriver, elle va accoler à son nom, elle porte le nom de sa maman, Claude, donc elle s'appelle Ophélie Claude, et elle va accoler le nom de Boxberger, ce qui va agacer la veuve de Jackie, qui va faire un procès pour ne plus qu'elle porte son nom, un procès qu'elle va perdre. Ophélie Claude devient Ophélie Claude Boxberger.
Et pendant ce temps, sa mère vit avec un homme qui va être important dans cette histoire, un certain Alain Flaccus. Qui est-il ?
Alors Alain Flaccus, c'est un dirigeant, entraîneur au club de Sochaux, qu'Ophélie va rencontrer, donc quand à 13 ans, elle va pousser la porte de ce club. Voilà, il est dirigeant, entraîneur, il va s'occuper d'elle. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire la connaissance de Sylvie, la maman d'Ophélie. Ils vont rapidement se mettre en couple sans vivre ensemble. Il devient le beau-père d'Ophélie. Ophélie raconte qu'elle le voyait régulièrement durant les fêtes de famille. Et puis voilà, il devient un personnage central dans son quotidien.
Sandrine Lefebvre, le 19 novembre 2019, vous allez révéler dans Le Parisien qu'Ophélie Claude Boxberger a fait l'objet d'un contrôle positif à un produit dopant, le PO. D'abord, sans trahir vos sources, bien sûr, comment est-ce que vous entendez parler pour la première fois de cette affaire ?
Il faut savoir que l'athlétisme français traverse une période très compliquée, avec les histoires de dopage, notamment de Clémence Calvin, mais aussi des remous internes avec des règlements de compte, des rumeurs qui circulent. Et donc, elle fait partie, comme Clémence l'était à l'époque, elle fait partie de ces athlètes qu'on surveille un petit peu. Et puis, je travaille avec d'autres journalistes, avec un journaliste de France Télévisions et avec une journaliste spécialisée dans le dopage. Et puis, on apprend qu'il s'est passé quelque chose et qu'elle a été contrôlée positive avant de partir à Doha. On confronte nos sources et puis on arrive à avoir quelques détails sur les dates, sur le produit qu'elle a pris, parce qu'au départ, on parle juste d'un contrôle positif, on ne sait pas encore que c'est de l'EPO. Donc on va avoir confirmation, puis là, on va sortir l'information.
Alors concrètement, qu'est-ce que vous écrivez le 19 novembre dans Le Parisien ?
Que juste avant de partir à Doha, en rentrant d'un stage en altitude qui se déroule à Font-Romeu, l'Agence française de lutte contre le dopage, c'est la même qui avait contrôlé Clémence Calvin, l'a contrôlée et que ses résultats sanguins et urinaires ont détecté la présence d'EPO.
Quelles sont les réactions après la publication de l'information ?
Alors, c'est une double information parce qu'on apprend qu'une information judiciaire a été ouverte à l'encontre d'Ophélie Claude Boxberger, mais également de son entourage. Et à ce moment-là arrive le personnage qui est son compagnon, Jean-Michel Serra, qui est médecin à l'époque de la Fédération française d'athlétisme, qu'on soupçonne de l'avoir aidé.
Donc, son compagnon, Jean-Michel Serra, est médecin à la Fédération française d'athlétisme. Quel est son rôle précisément ? Quelle est son importance dans la fédération ?
Alors, il est très important puisqu'il est chargé du suivi des athlètes de l'équipe de France, du haut niveau. Il n'a pas en charge le suivi médical des athlètes. En compétition, il est là pour les conseiller, pour les aider. Donc, il a un rôle très central.
Donc, quand il y a un contrôle positif à l'EPO d'Ophélie Claude Boxberger, lui aussi est directement soupçonné, forcément, à ce moment-là.
Les regards se tournent vers lui parce que, déjà, un certain nombre de rumeurs qui circulent dans cette fédération, voilà, il se racontait que le médecin aidait Ophélie à se doper. C'est ce qui se disait à l'époque et qui n'est absolument pas du tout confirmé à l'heure actuelle.
L'analyse du deuxième échantillon, l'échantillon B, confirmera le contrôle positif à l'EPO plus tard, le 18 décembre. Mais dès le 27 novembre, Ophélie Claude Boxberger est placée en garde à vue à la gendarmerie de Montbéliard où elle vit.
Il s'agit d'une deuxième garde à vue, puisqu'il y a déjà une première garde à vue lorsque, début novembre, lorsqu'on lui a signifié son contrôle antidopage. Et puis là, effectivement, elle est ramenée, placée en garde à vue. Et là, elle va de nouveau répéter qu'elle est innocente. Elle va de nouveau expliquer qu'elle ne comprend pas comment on a pu détecter de l'EPO dans ses urines.
Ce qu'Ophélie ne sait pas, c'est qu'au même moment, une autre personne est en garde à vue, en même temps, à la gendarmerie de Montbéliard.
Alors cette personne, c'est Alain Flaclus, le compagnon de sa maman, qui s'occupe de ses massages, qui s'occupe de sa préparation, qui l'accompagne. Elle n'a pas réellement d'entraîneur, Ophélie, donc elle picore un petit peu les conseils à droite à gauche. Et lui, lors des séances de fond, la dirige en pédalant sur un vélo devant pour la motiver. Donc il l'accompagne en stage, et puis il lui prépare ses repas, il l'amasse, il l'aide dans sa récupération, dans sa préparation.
Que dit Alain Flaclus aux enquêteurs ?
Ce qu'on apprend, c'est qu'il s'accuse d'avoir injecté lui-même une ampoule d'EPO à Ophélie lors d'une séance de massage. Sans le lui avoir dit, sans qu'elle ait pratiquement senti quoi que ce soit, elle raconte qu'elle a senti une espèce de griffure, qu'elle va lui dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et puis il lui dit non, mais c'est avec mes ongles, je t'ai accroché avec mes ongles, désolé. Et puis voilà, la séance va se poursuivre.
Et selon lui, d'après ce qu'il dit aux gendarmes, pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça ?
Par jalousie. Parce qu'il raconte qu'il est amoureux d'Ophélie. Donc c'est assez déroutant aussi, il est amoureux d'Ophélie.
Il a quel âge ?
Il a 62 ans, c'est le compagnon de sa maman. Et il raconte qu'il est amoureux depuis plusieurs années d'Ophélie et qu'il ne supporte pas la relation amoureuse qu'elle entretient depuis quelques mois avec Jean-Michel Serra, médecin de l'équipe de France.
Et donc il dit avoir fait ça pour nuire au médecin Jean-Michel Serra ?
D'après ce qu'il dit, c'est que forcément les soupçons se seraient tournés immédiatement vers le médecin. Et il a raison, puisqu'effectivement, quand on apprend le contrôle positif d'Ophélie, on pense immédiatement à Jean-Michel Serra.
Et Jean-Michel Serra est limogé par la Fédération française d'athlétisme le 3 décembre.
Pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec l'affaire de dopage, une procédure était en cours depuis les mondiaux d'athlétisme à Doha. Là-bas, il s'était affiché ouvertement avec Ophélie Boxberger. Leur relation amoureuse qui datait du mois de juin est révélée au grand jour, dans un climat malsain, puisque tout le monde va un petit peu rire de cette relation entre Ophélie, qui a 30 ans, et puis le médecin, qui en a pratiquement 60. Il s'affiche au grand jour, et puis le médecin n'est plus vraiment... la fédération va lui reprocher d'avoir un petit peu quitté son poste et de ne pas avoir été très opérationnel ce jour-là.
Alain Flaclus, qui a 62 ans, dit aux enquêteurs être secrètement amoureux de la fille de sa compagne. Ophélie Claude Boxberger qui vous accorde une interview, Sandrine Lefèvre, que vous allez publier le 8 décembre. Le fait que cet homme, Alain Flaccus, son beau-père, soit secrètement amoureux d'elle, qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle dit de ça?
Elle le raconte de manière posée, puis de manière comme si c'était finalement naturel, qu'elle le savait depuis longtemps et que pour elle, ça l'étonne absolument pas que le compagnon de sa maman soit amoureux d'elle.
Et pourquoi?
Ils se connaissent depuis 2001. Elle va me raconter qu'elle a subi des attouchements dès 2002, donc à l'époque, Ophélie a 13 ans. Elle raconte des choses qui sont effroyables, puisque elle me dit que lors des stages de club, Alain Flaccus demande à dormir dans la même chambre qu'elle, qu'il va lui montrer des films pornographiques. Alors c'est ce que raconte Ophélie, c'est des choses qu'on n'a pas pu vérifier, puisque Alain Flaccus n'a pas répondu à nos sollicitations. Donc c'est uniquement, voilà, c'est en témoignage à elle. Ce qui est certain, c'est qu'en 2006, elle va déposer plainte contre Alain Flaccus pour attouchement. Une plainte qu'elle va retirer quelques mois plus tard, nous dit-elle, à la demande de sa maman.
Pourquoi est-ce que sa mère lui demande de retirer sa plainte?
Ophélie dit que sa maman est amoureuse d'Alain Flaccus et que sa maman était parfaitement au courant de ce qui se passait et qu'elle aurait pu être considérée comme complice aux yeux de la justice et que pour pas que sa famille explose, elle préfère retirer sa plainte pour pas que sa maman ait des ennuis.
Ophélie Claude Boxberger coupe les ponts avec Alain Flaccus pendant de très nombreuses années. Elle reprend contact avec lui en 2018. Pourquoi?
Alors elle coupe les ponts avec lui et partiellement avec sa maman. Ophélie, c'est une jeune fille qui a grandi sans son papa et qui, suite aux affaires d'attouchement, va aussi avoir des relations extrêmement compliquées avec sa mère. Et puis en 2017-2018, elle a envie de renouer naturellement des liens avec sa maman. Renouer des liens avec sa maman, ça passe aussi par renouer des liens avec Alain Flaccus. Donc ce qu'elle dit, c'est qu'à la demande de sa maman, Alain Flaccus va de nouveau l'aider dans sa préparation. C'est là qu'il va l'accompagner en stage, qu'il va participer à ses entraînements, qu'il va la soutenir.
Qu'est-ce qu'elle dit de lui aujourd'hui? Est-ce qu'elle lui en veut?
Je lui posais la question parce que ce qui est dingue, c'est d'imaginer qu'elle puisse accepter de se faire masser par quelqu'un qui lui aurait fait subir des choses atroces dans son enfance. Et elle dit qu'elle pensait réellement qu'il avait changé, que le temps avait passé. Elle est toujours marquée par cette histoire parce que c'est une jeune fille extrêmement fragile qui est suivie par des psychiatres depuis son enfance, qui est sous tranquillisant régulièrement. Elle est toujours marquée, puis en même temps, elle dit qu'elle a envie de croire qu'il a changé.
Et est-ce qu'elle lui en veut d'avoir pratiqué cette injection d'EPO, selon ses propres dires?
Il ne se parle plus du tout. Elle a déposé plainte contre X, mais voilà, on sait très bien que la plainte se dirige vers lui, pour empoisonnement, donc ce sont des accusations extrêmement graves.
Où en est l'enquête dans cette affaire?
Alors les gendarmes actuellement sont en train de vérifier la version d'Alain Flaccus. Pourquoi est-ce que cet homme va d'un coup s'accuser? Pour quelle raison il aurait réellement injecté de l'EPO à l'insu d'Ophélie? Donc ils essaient de voir si, en gros, s'il n'y a pas eu un arrangement tacite entre Ophélie Boxberger et son beau-père, ou si réellement il a agi, comme il le dit, seul pour se venger.
Est-ce qu'Ophélie Claude Boxberger pourra participer aux prochains Jeux de Tokyo en 2020?
Alors bien sûr, elle l'espère, mais c'est extrêmement compliqué. Elle avait demandé au Conseil d'État la levée de sa suspension provisoire, recours qui a été rejeté. Donc c'est très compliqué pour elle. Elle le dit encore, parce qu'elle répète régulièrement qu'elle est fragile, qu'elle est au 36e dessous, qu'elle est démotivée, qu'elle ne va pas bien. Et du coup, voilà, on a du mal à imaginer comment elle va pouvoir retrouver des forces et se qualifier. Surtout, il faudra d'abord qu'elle explique à l'Agence française de lutte antidopage qu'elle est absolument étrangère à toute cette histoire.
Sandrine Lefèvre, vous parlez donc régulièrement du dopage dans le monde de l'athlétisme. Est-ce que vous n'êtes pas un peu écœurée par ce milieu?
Non, parce qu'on sait très bien que le dopage existe, que ça continuera d'exister, qu'il y a toujours des sportifs qui continueront de tricher. Mais ce qui interpelle aussi dans cette histoire, c'est l'aspect psychologique. Parce qu'on sait qu'Ophélie Claude Boxberger est une sportive extrêmement fragile. Elle n'a pas cessé de le dire. Et puis, on n'a pas vraiment pris en considération cette fragilité. Voilà, on l'a constaté. Et puis, on n'a peut-être pas forcément accompagné Ophélie. Et puis, on se rend compte aujourd'hui que le mal était sans doute bien plus profond que ça.
Merci à Sandrine Lefèvre. Épisode conçu et préparé par Marion Botorel, production Stéphane Geneste, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et n'hésitez pas à nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.